Il paraît que si vous voulez mettre un chrétien dans l'embarras, il faut lui demander de vous parler de sa vie de prière. Est-ce que c'est le cas pour vous? En tout cas, en ce qui me concerne, c'est vrai. Ne me demandez pas de vous parler de ma vie de prière. J'aimerais pouvoir vous dire que je me lève tous les matins à 4 heures pour passer 2 heures à prier avant de faire quoi que ce soit d'autre dans la journée. Mais ce serait pas vrai si je vous disais ça. Je ne suis pas un champion de la prière. Je ne suis pas un champion de la prière. Dans 100 ans, personne n'aura l'idée d'écrire un livre sur moi, intitulé « Alexandre le Grand, comment les prières d'un homme ont changé le cours de l'histoire ». Non, je vous assure, ça ne va pas se passer. C'est dommage, mais c'est la triste réalité. En tout cas, la tâche qui m'incombe cet après-midi est un peu délicate. J'ai un message à prêcher, dont je suis le principal destinataire. Mais sans doute, y a-t-il d'autres personnes dans cette pièce qui ne sont pas satisfaites de la place que la prière occupe dans leur vie chrétienne. Il y en a d'autres qui, peut-être, ne se sont même jamais posé la question et qui vont ce soir se rendre compte aujourd'hui de leur manquement dans ce domaine. Mais je ne veux pas que nous quittions ces lieux tout à l'heure en étant écrasés sous le poids de la culpabilité, d'une part, ni, d'autre part, remplis de résolutions légalistes. Ok, je vais mettre mon réveil une heure plus tôt pour passer du temps dans la prière, des résolutions légalistes finalement que nous ne tiendrons pas. J'espère au contraire que ce texte va servir bien plutôt à nous encourager et à provoquer en nous un désir sincère et profond, authentique, de prier davantage. C'est vrai que ce texte va dresser devant nous des exigences assez impressionnantes en ce qui concerne la place que devrait occuper la prière dans notre vie si nous sommes chrétiens. Et en même temps, le texte pointe vers ce qui est censé nous motiver à prier. Vers ce qui est censé nous motiver à prier. Le texte parle de la cause et pas seulement du symptôme, vous voyez. Et la leçon qu'on va retenir cet après-midi, c'est la suivante. Ouvrez grand vos oreilles. Voici la leçon. Pour que la prière occupe sa juste place dans notre vie, il faut que nos préoccupations s'alignent sur celles de Dieu. Pour que la prière occupe sa juste place dans notre vie, il faut que nos préoccupations s'alignent sur celles de Dieu. On va développer cette idée ce soir. Au-delà du simple sujet de la prière, ce texte va donc nous inviter à examiner quelles sont les choses qui comptent pour nous, en fin de compte. Et aussi, ce texte va peut-être remettre de l'ordre, enfin, nous inviter peut-être à remettre de l'ordre dans notre échelle de valeurs. Alors, on va lire le texte. Sans plus tarder, c'est la première épître de Paul à Timothée, deuxième chapitre, et nous lisons au début, verset 1 jusqu'au verset 8. J'exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Voilà pour la lecture, je vous invite à la prière. Au moment d'étudier ta parole, notre Dieu, nous sollicitons ton aide, l'aide de ton esprit, afin qu'il éclaire notre intelligence et rende nos cœurs disponibles et nos oreilles à l'écoute de tout ce que tu veux nous dire, de tout ce que tu veux faire dans notre vie, au nom de Jésus. Amen. Pour que la prière occupe sa juste place dans notre vie, il faut que nos préoccupations s'alignent sur celles de Dieu. Alors quand on commence à lire ce texte, il y a une chose qui saute aux yeux. C'est l'insistance de Paul sur le caractère prioritaire du sujet qu'il est en train d'aborder. Est-ce que vous avez remarqué au verset 1 le langage employé?
j'exhorte.
En tout premier lieu, il ne dit pas je vous conseille en passant. Non, il dit j'exhorte. C'est très très fort comme verbe.
En tout premier lieu.
Et ensuite, il utilise une figure de style qu'on appelle une redondance. Je dis ça pour les littéraires. Une redondance qui consiste à répéter une même idée avec des mots différents.
Des requêtes, des prières, des intercessions, des actions de grâce.
Voyez, parmi les instructions que Paul veut donner aux membres de l'église de Timothée, l'église d'Éphèse, je vous rappelle, il y a donc quatre choses qu'il place en priorité. La prière, la prière, la prière et la prière. Incroyable. À ce stade de la lettre, en fait, Paul est sur le point de donner des instructions pratiques au sujet de la vie chrétienne, d'accord, et notamment de la vie en église. On verra ça dans les dimanches qui viennent, dans les semaines qui viennent. Mais avant d'entrer dans les détails, voici ce que dit Paul. Vous voulez que ça marche, tout ce que je vais vous dire, tous les conseils que je vais vous prodiguer, vous voulez que ça marche. Règle numéro 1, priez. C'est comme si vous vouliez apprendre à pratiquer un certain sport que vous n'avez jamais pratiqué, vous ne connaissez pas les règles, et puis votre prof, votre coach vous dit, écoute, ce qui est le plus important, il faut que tu retiennes ceci, c'est vraiment le plus important, c'est prioritaire, il faut que tu fasses comme ça. Je ne sais pas, disons que c'est du foot, il faut que tu joues dans le sens du but. Après, le reste, on va le mettre en place progressivement. Mais souviens-toi au moins de ça. On joue dans le sens du but adverse, bien sûr. On joue dans le sens du but adverse. C'est ce que Paul est en train de dire ici, hein. Un peu comme s'il disait, écoutez les amis, chers Éphésiens, chers membres de l'église de Timothée, votre église a un certain nombre de problèmes. Il y a beaucoup de choses dont on doit parler, dont je vais vous parler dans cette lettre. On va parler des devoirs des hommes et des femmes, respectivement. On va parler des qualifications requises pour les anciens, pour les diacres. Vous voyez, des choses très très concrètes. On va parler de la question des veuves, des personnes âgées, la question des esclaves dans l'église, des esclaves chrétiens qui ont peut-être des maîtres pas chrétiens ou inversement. On va parler de tout ça, mais avant, il faut que vous vous préoccupiez de ce qui est vraiment prioritaire. D'accord ? On va parler de tout ça, mais d'abord, on va parler de ce qui est vraiment prioritaire. Et ce qui est prioritaire, c'est la prière. Alors la question qu'on peut se poser, hein, quant à nous, cet après-midi, c'est la suivante. Quelles sont les priorités de notre vie? Quelles sont nos priorités? Pour Paul, tout en haut de l'échelle de priorité des chrétiens, il place la prière. La prière. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Éphésiens 6, verset 18. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Colossiens 4, verset 2. Tout ça, c'est Paul qui l'a écrit. Hein. Notre échelle de priorité, mes amis, à nous, notre échelle de priorité révèle en fait notre échelle de valeur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça signifie en ce qui concerne... Considérons la place qu'occupe la prière dans notre échelle de priorité et posons-nous la question de ce que ça veut dire concernant notre échelle de valeur. Et bien justement, Paul veut ici corriger quelque peu notre échelle de valeur en nous faisant considérer dans un deuxième temps, dans la suite du passage, quelles sont les préoccupations de Dieu. Quelle est en fait l'échelle de valeur de Dieu? Vous êtes prêts? Alors on poursuit. La deuxième chose qu'on voit dans le texte, c'est Paul qui va proposer un sujet de prière particulier. Il exhorte à prier, dit-il, pour tous les hommes. On est encore au verset 1 et ensuite verset 2, il ajoute, notamment pour les dirigeants politiques et pour tous ceux qui sont dans une position d'autorité. Et ensuite, Paul en donne la raison, c'est pourquoi est-ce qu'il faut prier pour ces gens? Pour que nous puissions vivre dans des conditions favorables à la piété chrétienne et pour que le témoignage à la vérité puisse progresser dans de bonnes conditions, ce qui est conforme, dit-il, au dessein de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Ce que Paul nous invite à faire ici, tout simplement, c'est de prier selon le cœur de Dieu. Prier selon Dieu, selon les préoccupations de Dieu, prier selon l'échelle de valeur de Dieu. Il faut que nous nous préoccupions de ce qui préoccupe Dieu. Le verbe préoccuper, vous allez m'entendre l'utiliser souvent ce soir. Il faut que nous nous préoccupions de ce qui préoccupe Dieu. Et qu'est-ce qui préoccupe Dieu? Jésus l'a dit explicitement à ses disciples. Il a résumé en quelque sorte la grande mission des chrétiens. Vous vous souvenez très bien de ce passage à la fin de l'évangile de Matthieu notamment. Il s'adresse à ses disciples et il leur dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Voilà ce qui préoccupe Dieu en ce qui concerne notre vie. Mais est-ce que c'est ça qui nous intéresse, nous, au quotidien? D'aller et de faire des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder tout ce que Jésus a prescrit. Est-ce que c'est ça qui nous intéresse au quotidien aujourd'hui? Imaginez un père de famille qui réunit ses enfants, enfin qui réunit sa famille, un samedi matin, dans le salon, et qui leur dit, écoutez les loulous, papa et maman ont invité des amis pour le déjeuner, alors on va passer la matinée à ranger la maison, d'accord? On va ranger la maison parce qu'on a des invités qui viennent à midi. Chacun s'y met, nous on va s'occuper de la cuisine et de la salle à manger, et vous, vous allez vous occuper de votre chambre. 2 heures plus tard, peu de temps avant l'arrivée des invités, le père fait le tour de la maison, il ouvre la porte de la chambre des enfants. Le désordre absolu. Le désordre absolu. La pagaille. Mais papa, tu comprends, nous, on s'en fiche un peu de tes amis, finalement. Nous, ce qui nous intéressait ce matin, c'était de jouer. C'est un peu insolent, non? Mais bon, c'est un peu aussi, malheureusement, notre attitude vis-à-vis de Dieu. Lorsque notre échelle de valeur et de priorité ne s'aligne pas sur la sienne. N'est-ce pas? Ce texte nous dit que ce qui est bon et agréable devant Dieu, c'est notamment que nous prions pour que nous puissions vivre dans des conditions favorables à l'exercice de la piété chrétienne. Enseignez-leur, a dit Jésus, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Vraiment, est-ce que c'est notre préoccupation aujourd'hui de garder ce que Jésus a prescrit? Est-ce qu'on se préoccupe des conditions dans lesquelles nous vivons pour que cela soit possible, pour que les conditions soient favorables à la piété chrétienne et à la dignité? Est-ce qu'on s'en préoccupe vraiment? Si oui, alors nous devrions logiquement faire une priorité de prier pour ça, de prier pour que ça puisse se passer, c'est-à-dire notamment de prier pour toutes les personnes qui sont en position d'autorité dans notre vie. Ça inclut bien sûr nos dirigeants politiques, Paul les mentionne de façon explicite, les rois, mais il élargit en disant tous ceux qui occupent une position supérieure, tous ceux qui sont haut placés dans certaines traductions. Pourquoi faut-il prier pour cela? Parce qu'ils ont le pouvoir, ces gens-là, de changer radicalement nos conditions de vie, en bien ou en mal. Ils ont le pouvoir de le faire, du jour au lendemain, mes amis, en bien ou en mal. Il faut prier pour eux. Pour les dirigeants politiques, certes, mais ça inclut aussi les personnes qui sont en position d'autorité spirituelle dans notre vie et qui ont une influence sur les conditions de notre vie. Par exemple, les responsables de l'Église. Par exemple, votre mari, si vous êtes une femme mariée, à plus forte raison, d'ailleurs, s'il n'est pas croyant. Vous savez, il y a beaucoup de femmes chrétienne dont le mari n'est pas croyant. C'est une invitation à prier pour lui parce que ses décisions ont une répercussion directe sur vous, sur votre vie et votre vie de famille. Prions pour nos parents, enfin je m'adresse aux enfants, priez pour vos parents parce que leurs décisions ont une répercussion directe sur votre vie et sur votre piété chrétienne. Prions pour tous ces gens afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité, dit l'apôtre. Paul a donc cité une catégorie particulière de personnes, d'accord, pour lesquelles nous devons prier si nous nous préoccupons de ce qui préoccupe Dieu. Mais ce n'est pas tout. Troisième point. Avant de faire cet aparté, en quelque sorte, au sujet des rois et des personnes en position d'autorité, Paul a dit, vous l'avez noté, verset 1, qu'il fallait prier pour tous les hommes. Et ensuite, dans la suite du passage, je vais revenir un peu à cette affirmation un peu plus large, pour montrer combien cette affirmation-là, cette exhortation-là, s'aligne sur le dessein de Dieu. Il faut prier pour tous les hommes, dit-il, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi faut-il prier pour tout le monde? Parce que Dieu, dit-il, est le Dieu de tout le monde. Qu'il le sache ou non, les autres. Dieu est quand même le Dieu de tout le monde. Il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pourquoi faut-il prier pour tout le monde? Non seulement parce que Dieu est le Dieu de tout le monde, mais parce que le message de l'Évangile est un message pour tout le monde. Jésus a dit, dans la fin de l'Évangile de Marc, cette fois, il a dit, « Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute la création. » Ok? Toute la création. Il faut que nous nous préoccupions de ce qui préoccupe Dieu. Voilà ce qui préoccupe Dieu. Et si nous nous préoccupons de ce qui préoccupe Dieu, nous allons nous préoccuper de tous les hommes. Et si nous nous préoccupons de tous les hommes, nous allons aussi prier pour tous les hommes, n'est-ce pas? C'est pas logique? Paul est en train d'insister ici. D'une part sur l'unicité du message de l'Évangile, vous avez noté, un seul Dieu, un seul médiateur. L'Évangile c'est quelque chose d'unique,
d'exclusif, de bien particulier, de bien précis, de bien défini. Donc il insiste sur l'unicité de l'évangile d'autre part,
il insiste sur la portée universelle de ce message. Okay, un seul évangile, un seul Dieu, un seul médiateur, mais de l'autre côté, on a tous les hommes. Tous les hommes.
Vous l'avez compris, Paul est en train de nous renvoyer à ce qui constitue le fondement même de notre espérance chrétienne ici. C'est que Jésus, le Fils éternel de Dieu, est venu dans le monde, il a vécu dans l'obéissance parfaite à Dieu, et il est mort sur la croix pour satisfaire à notre place la justice de Dieu. Comme une rançon, dit-il. Comme Paul dit, c'est comme une rançon qui a été versée en notre faveur, pour nous libérer du mal et de la mort. Aucune autre rançon que celle-là n'a été versée et ne sera jamais versée. Aucune autre rançon ne sera versée pour vous, mes amis, en votre faveur, que celle qui a été versée quand Jésus est mort sur la croix pour satisfaire parfaitement la justice de Dieu. Ça ne va pas se reproduire. Ça ne s'était jamais produit, ça ne se reproduira jamais. Mais cette rançon a été versée en faveur de toutes sortes d'êtres humains. Sans discrimination de race, d'âge ou de sexe, à condition que ces êtres humains placent leur confiance en Jésus. C'est ça que Paul est en train de dire dans ce passage. Il y a un seul évangile, un seul Dieu, un seul médiateur, une seule rançon. Mais la portée de cet évangile, elle est universelle. Il n'y a pas de discrimination en ce qui concerne les gens qui peuvent entrer au bénéfice de ce que Dieu a fait, à condition que l'on place notre confiance en Jésus. Paul veut donc que nous gardions à l'esprit la destination universelle de ce message unique. C'est un peu comme si Nubia avait préparé un gâteau pour la collation après le culte, d'accord ? Et que Judson, le fils de Nubia, pour ceux qui ne le connaissent pas, et que Judson, en voyant le gâteau après le culte, se précipite dessus en se disant « Mais c'est ma mère qui l'a fait, ça doit être pour moi !» Mais Nubia va lui dire « Non, non, Judson, ce gâteau, Judson est destiné à tout le monde. Si tu, bien sûr que tu peux en avoir, mais tu dois en proposer aux autres. » D'accord ? C'est comme ça qu'on élève nos enfants, bien sûr. En disant que le gâteau est destiné à tout le monde, Nubia n'est pas en train de dire que tout le monde va en manger de ce gâteau. Elle n'est même pas en train de dire qu'il y en a assez pour tout le monde. Mais seulement que la proposition d'en manger doit être faite à tout le monde. Elle l'a fait pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde va en manger, ni même qu'il y en a assez pour tout le monde. Cette intention, cette préoccupation, d'accord, de Nubia, doit donc conditionner la préoccupation, quelque part, de Judson et par conséquent, son comportement vis-à-vis de ce gâteau. De la même façon, lorsque Paul dit que l'évangile est destiné à tout le monde, il ne veut pas dire que tout le monde sera sauvé, comme certains veulent le faire dire à ce texte, ce n'est pas vrai. Il n'est pas en train de dire que tout le monde sera sauvé, mais il est en train de dire que l'évangile doit être annoncé sans discrimination. Sans discrimination. Par conséquent, Paul nous invite à prier pour que toutes sortes de personnes soient touchées par l'évangile et se convertissent à Jésus. Des hommes et des femmes de toute nationalité, de toute condition sociale et même de toute religion. Cette idée était un peu choquante pour les juifs de l'époque, d'accord ? Parce qu'ils avaient du mal à imaginer que Dieu veuille sauver des païens, des gens qui n'étaient pas du tout juifs, vous voyez ? Qui n'avaient jamais participé au culte, au temple, qui autrefois adoraient des idoles et mangeaient des viandes impures. Ils ne pouvaient pas imaginer que Dieu puisse vouloir sauver ces gens-là. D'accord ? C'est pourquoi, verset 7, Paul prend soin de mentionner, de rappeler sa vocation particulière en tant qu'apôtre ou docteur des païens. D'accord, il a dit, moi, c'est à ça que j'ai précisément que j'étais appelé. Mais aujourd'hui, je suppose que la plupart d'entre nous ici présents, nous sommes des païens en fait. Hein. Il n'y a probablement pas beaucoup d'entre nous qui sommes juifs. Alors ça nous choque moins, mais aujourd'hui, quelles sont ces personnes de votre entourage dont vous avez du mal à imaginer que Dieu puisse vouloir les sauver? Quelles sont ces personnes de votre entourage pour lesquelles vous ne priez pas? Dieu veut que des gens comme vos voisins soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que des gens comme vos camarades de classe à la fac ou comme vos collègues au travail ou comme les soufis qui se réunissent de l'autre côté de la cour, Dieu veut que des gens comme ça se convertissent.
et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que vos préoccupations sont alignées sur celles de Dieu? Et cela se reflète-t-il dans votre vie de prière? Mais il y a encore une dernière chose qu'il faut mentionner avant de terminer. Verset 8, Paul va faire une application concrète des principes qu'il a exposés concernant l'importance de la prière dans la vie chrétienne. Il va faire une application concrète. Il a dit qu'il fallait prier en priorité, d'accord, c'est notre premier point. Il a dit qu'il fallait prier pour les personnes en position d'autorité, c'est notre deuxième point. Il a dit qu'il fallait prier pour que toutes sortes d'hommes se convertissent, c'était notre troisième point. Mais maintenant il dit, tenez-vous bien, maintenant il dit que c'est aux hommes, j'insiste, que c'est aux hommes de prendre leurs responsabilités et de montrer le chemin dans ce domaine, car c'est leur devoir en particulier. J'explique, le mot traduit ici par « homme », verset 8, est différent de celui qui a été employé dans tous les versets précédents. Dans tous les versets précédents, jusque-là, « homme » pouvait être traduit dans un sens général, les êtres humains, les personnes, tout le monde, vous voyez, tous les hommes, c'est tout le monde, tous les gens. Mais ici, il s'agit des hommes par opposition aux femmes. Tiens, tiens. C'est d'ailleurs le début d'une section où il va parler, Paul, des devoirs respectifs des hommes et des femmes. Vous avez vu, si on regarde, on jette un bref coup d'œil au verset 9, « De même aussi que les femmes ». Donc vous voyez, « Je veux donc que les hommes », et puis verset 9, « De même aussi que les femmes ». Et c'est le terme spécifique pour les hommes par opposition aux femmes. Paul n'est pas en train de dire ici qu'il n'y a que les hommes qui doivent prier. Non, c'est pas vrai. Il ne dit pas qu'il n'y a que les hommes qui doivent prier, mais il est en train de dire qu'il incombe aux hommes d'ouvrir la marche dans ce domaine. Rappelez-vous que d'après la Bible, il y a certaines responsabilités que Dieu a confiées spécifiquement aux hommes dans le cadre de l'Église et de la famille en particulier. Imaginez que vous soyez un soldat allié lors du débarquement, d'accord? Et qu'au moment où s'abaisse la rampe de la barge, vous voyez, c'est un moment vraiment terrible, hein. Au moment où s'abaisse la rampe de la barge, le chef de votre section reste tout au fond du bateau, blotti derrière des sacs de sable et qui vous disent « Allez-y, allez-y les gars, je suis de tout cœur avec vous, bon courage, vous allez vaincre, vous allez voir. » C'est bien plutôt au chef, normalement, d'ouvrir la marche et d'entraîner les autres à sa suite, non? Ce serait un bien piètre chef de section, celui-là. Ce qui est important pour Paul, vous voyez, c'est que les hommes prient en tout lieu, dit-il, et qu'il le fasse sans hypocrisie, c'est-à-dire qu'il le fasse en étant en même temps des exemples d'humilité, de repentance et d'amour du prochain. Il dit que les hommes prient en tout lieu en levant des mains pures, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Chers frères, j'insiste, frères, chers frères, il y a là, pour nous, les hommes, un véritable ordre de mission. Il y en a d'autres dans la Bible, mais là il y en a un, effectivement, ce qui nous concerne. Nous devons nous préoccuper de notre devoir particulier dans ce domaine. Rappelez-vous que je suis en train de prêcher à moi-même en premier. Hein. C'est moi le destinataire principal de ce message. Hein. Vous pouvez vous sentir libre d'écouter si vous voulez, mais moi c'est... Maris et pères. Vous êtes mariés, si vous êtes pères, nous devons montrer le chemin de la prière dans nos familles. Pasteurs et anciens, nous devons montrer le chemin de la prière dans l'Église. À l'image des apôtres, vous vous souvenez de cette histoire, Actes chapitre 6, les apôtres étaient un peu préoccupés de ce qu'il y avait tellement d'autres choses à faire, des choses pratiques. Ils ont décidé que ce serait une bonne chose de nommer des personnes spécifiques pour les tâches matérielles. Ils ont appelé ces gens-là des diacres, en précisant, on va nommer des diacres, afin que nous puissions persévérer, je vous le donne dans le mille, dans la prière et dans le service de la parole. Vous voyez, Dieu se préoccupe de notre devoir en tant qu'homme, mais est-ce que nous, en tant qu'homme, nous nous préoccupons de notre devoir? C'est avant tout à nous, les hommes, d'initier des moments de prière avec notre épouse, à nous de conduire nos enfants dans des moments de prière. C'est d'abord à nous d'ouvrir la marche. Et cela, nous dit l'apôtre Paul, en tout lieu, à la maison, dans la chambre, à table, en vacances, en voyage, parfois même en voiture, peu importe. C'est un devoir auquel nous ne devons pas nous soustraire, ni par lâcheté, ni par paresse. C'est une responsabilité que Dieu nous confie et dont lui, le Seigneur, se préoccupe. Alors vous voyez, comme on l'a dit en introduction, pour que la prière occupe sa juste place dans notre vie, il faut que nos préoccupations s'alignent sur celles de Dieu. Je ne parle plus maintenant exclusivement des hommes, mais de tout le monde ici présent, je parle surtout de moi d'ailleurs. Dieu a un dessein pour notre vie et pour le monde qui nous entoure. Il a un dessein pour notre vie. Il nous a révélé ce dessein dans la Bible. Dieu a envoyé son Fils, Jésus, dans le monde pour sauver les pécheurs. Alors la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que vous lui avez remis votre vie ? Dieu veut que nous vivions dans la paix, de façon pieuse et digne. Est-ce que c'est vraiment votre préoccupation quotidienne ? Dieu veut sauver des gens de tout arrière-plan à travers la prédication de l'Évangile. Est-ce que nous prions pour que cela se produise ? Dieu nous ordonne de prier. Il n'a pas besoin de nos prières pour agir, mais il veut agir à travers nos prières. Dieu n'a pas besoin de nos prières pour agir, mais il veut agir à travers nos prières. Dieu a décrété la fin, mais il en a également ordonné les moyens. Je répète, c'est un peu compliqué. Dieu a décrété la fin, mais il en a également ordonné les moyens. Autrement dit, nos prières s'inscrivent dans le plan éternel de Dieu, de telle sorte que ce que Dieu a éternellement décidé de faire, il a éternellement décidé de le faire en contrepartie à travers nos prières. Je répète, c'est un peu compliqué. Nos prières s'inscrivent dans le plan éternel de Dieu, de telle sorte que ce que Dieu a éternellement décidé de faire, il a aussi éternellement décidé de le faire en grande partie à travers nos prières. Vous voyez que prier n'est pas une option pour les chrétiens. C'est un devoir. Mais heureusement que Paul nous a aussi rappelé dans ce passage que nous avions en tant que chrétiens un médiateur. Nous avons un médiateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus lui-même, le Fils de Dieu qui s'est donné en rançon pour nous. Nous pouvons donc prier le Père avec une grande assurance, sachant que si nous plaçons notre confiance en Jésus, Dieu nous est propice. La différence entre un non-chrétien qui prie, c'est-à-dire quelqu'un de n'importe quelle autre religion d'ailleurs qui prie, il y a beaucoup de religions avec des gens qui prient, la différence entre un non-chrétien qui prie et un chrétien qui prie, c'est la différence entre une violente crapule qui vient frapper à votre porte pour solliciter de l'argent et un enfant bien-aimé qui vient faire la même chose. Vous avez saisi la différence ? Nous sommes les enfants bien-aimés du Père, si nous avons placé notre confiance en Jésus. Dieu nous est propice, comme vous seriez propice à un enfant que vous aimez. Puissions-nous jamais oublier en tant que chrétiens que notre Père Céleste nous est propice grâce à Jésus si nous sommes en lui. J'espère en tout cas que tout ça a pu servir à nous encourager et à provoquer en nous un désir sincère et profond de prier davantage. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un dira à votre sujet, ou peut-être à mon sujet, ce que Marie Stuart, la reine d'Écosse, a dit au sujet du grand réformateur John Knox. Vous avez entendu parler de John Knox ? Marie Stuart, la femme du roi François II de France, a dit au sujet de John Knox, « Ses prières m'inspirent plus de crainte que toutes les armées d'Europe réunies. » Amen. Je vous invite à la prière, justement.